Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter VOA Afrique et surtout d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir, le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. À ce micro, je suis Mamadou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine.
Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons du quotidien des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous le verrons, pour certains, le plus difficile n'est pas toujours la maladie, mais le regard des autres.
Avec la famille, c'était une grosse déception pour eux. Ils m'ont même pas accepté. À un moment, j'étais même rejeté.
Dans cette édition, nous écouterons le cri de cœur d'un séropositif.
Pour ceux qui ne sont pas PVV, il suffit seulement de nous accepter comme tels. Ce qui nous sépare, c'est mal les microbes qui est dans les sangs. Il suffit seulement de nous donner l'affection, de nous accompagner, de porter une main forte pour nous.
Toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Le docteur Amangenkap répondra une fois encore aux questions des auditeurs. Mais d'abord, l'actualité.
Coup d'œil sur l'actualité.
Et comme d'habitude, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin.
Bonjour Mamadou.
Commençons par la lutte contre le sida et cette bonne nouvelle annoncée par l'ONU Sida selon laquelle le nombre de décès liés au sida a diminué de moitié.
Oui Mamadou, ce nombre est passé de 1,9 million en 2005 à 1 million en 2016 selon le rapport annuel de l'ONU Sida sur l'épidémie. Malgré cette avancée notable dans la lutte, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU Sida, a indiqué que la lutte pour mettre fin au sida ne fait que commencer. Surtout qu'il n'existe pas encore de vaccin contre le VIH ou de médicaments guérissants du sida.
Alors Firmin, comment l'ONU Sida explique-t-elle cette baisse des décès liés au sida?
Cette baisse est liée en grande partie à une meilleure diffusion des traitements par antirétroviraux selon le rapport. Plus de la moitié des malades dans le monde sont désormais sous traitement. La région du monde qui accomplit le plus de progrès est l'Afrique australe et de l'Est qui rassemble plus de la moitié des personnes séropositives et où beaucoup d'efforts ont été déployés. L'ONU Sida souhaite cependant que les bailleurs de fonds se mobilisent pour trouver 7 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2020.
Autre annonce Firmin, un enfant sur 10 dans le monde n'a reçu aucun vaccin en 2016, courant ainsi le risque d'attraper certaines maladies, pourtant évitables.
En effet, Mohamedou, c'est ce qui ressort d'une étude menée conjointement par l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Selon cette étude, 13 millions d'enfants sur un total de 116 millions ne sont pas vaccinés. En outre, plus de 6 millions d'enfants n'ont reçu qu'une seule dose de vaccin sur les trois nécessaires pour être protégés. La plupart des enfants qui ne sont pas immunisés sont les mêmes qui échappent au système de santé, a relevé le docteur Jean-Marie Okwebele, directeur de l'immunisation et des vaccins à l'OMS. Si nous voulons augmenter le taux de couverture globale d'immunisation, les services de santé doivent atteindre ceux qui ne le sont pas, a-t-il ajouté.
Mais au fait, Firmin, de quelle maladie parle ce rapport?
Selon l'étude, la vaccination permet aujourd'hui d'éviter entre 2 et 3 millions de morts chaque année et des maladies comme la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la rougeole. 6 pays africains ont encore un taux de vaccination inférieur à 50%. Il s'agit de la République centrafricaine, du Tchad, de la Guinée équatoriale, du Nigeria, de la Somalie et du Soudan du Sud.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Et terminons par la lutte contre le tabac. Les politiques mises en œuvre depuis 10 ans ont permis de sauver des vies.
Oui, Mamadou, le rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme publié le 19 juillet dernier conclut que davantage de pays ont mis en œuvre des politiques de lutte anti-tabac allant des mises en garde illustrées sur les paquets aux zones non-fumeurs en passant par les interdictions de la publicité. Depuis 2007, plus de 3 milliards de personnes supplémentaires sont protégées par les mesures relatives à une meilleure pratique figurant dans la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac.
Il s'agit là d'avancées significatives, mais attention, le tabac fait encore de nombreuses victimes.
En effet, avec plus de 7 millions de morts par an, la consommation de tabac est la première cause évitable de mortalité dans le monde. Ses coûts économiques sont également énormes. L'OMS demande par conséquent aux États de continuer à appliquer les 6 stratégies de lutte conformes à la Convention cadre, à savoir surveiller la consommation de tabac et des politiques de prévention, protéger la population contre la fumée du tabac, offrir une aide à ceux qui veulent arrêter le tabac, mettre en garde contre les méfaits du tabagisme, faire respecter l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage, et augmenter les taxes sur le tabac.
Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Nous vous le disions en début de ce programme, cette semaine nous parlons des personnes vivant avec le VIH-Sida. Cela fait 34 ans que le virus a été découvert, mais jusqu'à présent, il n'existe pas encore de médicaments permettant de soigner la maladie. Pour le moment, les antirétroviraux, ou ARV en sigle, permettent de réduire le taux du VIH dans l'organisme, mais à la condition d'être dépisté tôt et de prendre régulièrement ces ARV. Malgré des décennies d'informations et de sensibilisation sur la maladie, c'est toujours un choc de découvrir sa séropositivité. Pire encore, quand on est homosexuel en Afrique, comme c'est le cas d'Achille, un jeune Camerounais qui a accepté de nous raconter son histoire. Il commence par nous dire comment il a appris qu'il était séropositif et quelle a été sa réaction.
Ça fait 5 ans que je suis porté du virus. On m'a annoncé ça lors d'une maladie. J'étais autrement malade. Je suis parti à l'hôpital et on a fait les examens. Tant que tu vas me consulter. Parce que après, lorsque j'ai guéri de la maladie que j'avais, que je suis revenu vers le médecin, poser la question de qui il s'agissait. Il m'a dit, voilà, vous êtes porté du VIH. Je ne peux pas vous mentir, ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré. Je voyais tous mes rêves s'écouler. Il est vrai que je connaissais déjà la thématique VIH, mais ce n'était pas facile pour moi d'endosser les coups. Et je me suis enfermé en moi-même, je suis resté dans mon coin et j'ai pris sur moi d'oublier cette situation et de passer à autre chose. Oublier même qu'on m'a donné déjà des résultats. Alors si je ne le faisais pas ces 5 ans, je pouvais mourir, je pouvais me donner la mort. C'était pas facile.
Alors, est-ce que vous avez parlé de votre statut autour de vous? À partir de quel moment vous avez décidé de briser le silence?
Il m'a fallu un an déjà pour accepter ma condition, pour apprêter comment je vais faire avec ma famille. Avec cette chance que j'étais dans le communautaire, déjà, je connaissais la thématique, comme je vous ai dit. J'avais des amis qui étaient aussi dans ces choses-là, qui connaissaient aussi. C'était plus facile de les annoncer. Et on a discuté longuement, ils m'ont donné les conseils. Mais jusqu'à là, je n'ai pas toujours accepté de partager mon statut avec quelqu'un d'autre que ces amis-là. Et je n'ai même pas accepté de prendre un traitement parce que je n'acceptais pas toujours. Même après tous ces conseils, je n'acceptais pas. Mais j'ai discuté avec les amis, ils ont accepté, ils me soutiennent. Avec la famille, il m'a fallu un an, donc 2 ans après mon statut. Je les ai réunis, j'ai d'abord parlé à ma mère et j'ai continué avec. Et bon, c'est une grosse déception pour eux de connaître que je suis un MSN, je suis séropositif. Là, c'est très difficile. Ils m'ont même pas accepté. À un moment, j'étais même rejeté par les autres, sauf ma mère. Mon père, mes frères, mes soeurs, ils ont dit non, ils ne voulaient plus de moi. Donc, sauf ma mère était encore avec moi.
Vous êtes parti du domicile familial?
Oui, pas seulement parce que j'étais T+, mais c'était aussi mon orientation sexuelle qui n'acceptait pas. Il n'acceptait pas aussi le fait que, entre autres, j'ai le virus, ça, il n'acceptait vraiment pas. Donc, pour eux, c'était un peu de gros.
Donc, vous avez été victime de stigmatisation, de discrimination dans votre propre famille. Et au-delà, est-ce que vous avez connu d'autres expériences de discrimination dans la société? Est-ce que vous avez d'autres témoignages et des situations qui vous...
Oui.
Voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Il y a un an ou bien un an et demi, j'ai postulé pour un travail. J'ai postulé, mon dossier est passé, j'ai fait l'entretien et ils m'ont même retenu, ils m'ont donné rendez-vous pour commencer le service. Je devais commencer le service un lundi. Entre-temps, j'avais le rendez-vous à l'hôpital pour aller chercher mes médicaments. Je suis arrivé à l'hôpital, lorsque j'attendais mes médicaments, j'ai mon chef, celui qui m'avait auditionné, qui est passé à parler. Il devait rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Il m'a vu à l'hôpital des jours assis. Lorsque je suis revenu le lundi, commencer le boulot, bon, il n'était pas là, mais lorsqu'il est revenu en soirée, il a envoyé la nouvelle qu'on me dise que je ne sais pas retenir, qu'ils ont changé d'idée, ils ont pris autre personne. Donc j'ai su bien après que c'était à cause de ça qu'il ne m'a pas donné ce boulot.
Alors, vous avez dit qu'au départ, vous ne preniez pas les médicaments, mais vous le faites déjà. Comment se passe votre traitement? Vous recevez quel type de médicaments? Vous prenez ça combien de fois par jour? Comment ça se passe, le traitement?
Le traitement, je prends un comprimé déjà par jour. Ça se passe bien parce que j'ai accepté ma condition, mais le plus difficile, c'est aller chercher les médicaments. Parce que lorsque tu travailles, aller chercher les médicaments devient un peu très difficile parce qu'il faut passer presque toute une journée pour être reçu. Et puis, vous arrivez, vous êtes même 100 personnes dans la file d'attente. Si tu n'es pas arrivé très tôt, soit il faut sortir 4 ou 5 heures du matin pour aller. Tu vois, soit même plus, même à 3 heures du matin pour aller dormir à la porte et attendre, être le premier pour être reçu. Donc, ça devient très difficile. Et si ça se répète, par exemple, tu peux perdre ton emploi. Parce qu'on a remarqué, dans nos hôpitaux du jour, les personnes ne sont pas toujours très accueillantes. Et on te lance les petits mots, que passe avec ton VIH là, c'est pas moi qui t'ai donné le médicament, si tu ne veux pas attendre, rentre chez toi, ces petits mots, et ça devient très difficile lorsque le médicament finit. Pour quelqu'un qui pense repartir à l'hôpital récupérer le médicament et passer les très mauvais moments, ça ne nous donne pas l'envie de continuer. On n'a pas le choix, on veut vivre, on est obligé d'accepter ces conditions. Mais lorsque le médicament est déjà là, je prends le médicament tout simplement.
Donc vous prenez une pilule chaque jour et pendant combien de temps avant que la boîte que vous recevez de l'hôpital à l'hôpital s'épuise?
Généralement, la boîte c'est pour un mois. La boîte c'est pour un mois bien calculé, 30 jours.
Donc tous les...
S'il y a les mois, ça devient difficile, mais c'est pour 30 jours.
Est-ce que vous avez des interdits que vous devez observer, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses à l'hôpital qu'on vous a dit de ne pas manger, de ne plus boire? Et puis, les médicaments que vous recevez, est-ce que vous avez déjà eu une fois des effets secondaires?
Oui, les débuts, et lorsque tu sautes des médicaments, lorsque tu sautes un ou deux jours, il arrive en recommençant les vertiges, les vomissements. Comme interdit, on nous a interdit de ne pas prendre la boisson, d'éviter la cigarette, de ne pas prendre l'alcool en général, de ne même pas fumer, de manger un peu plus tôt, donc 2 heures avant la prise des médicaments. Donc ça, ce sont les interdits qu'ils nous ont dit. Mais dans la nutrition, il n'y a pas trop d'interdits. Mais ils nous encouragent beaucoup plus à faire beaucoup de sport parce que les molécules de certaines personnes autour de moi que j'ai observées, ça les a donné énormément du poids.
Alors, quel est l'état d'esprit du séropositif que vous êtes? Qu'est-ce qui est plus difficile pour vous? Est-ce que c'est la peur de décéder de la maladie? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est par rapport au mariage ou bien aux enfants que vous voulez faire et qui pourraient avoir le VIH, qu'est-ce qui, selon vous, est le plus difficile dans votre état?
Comme tout être humain qui voudrait bien avoir les enfants, il arrive que lorsque tu penses à la maladie, tu dis « Oh, peut-être je n'aurai pas d'enfants, peut-être mes enfants seront malades. » Ce sont les questions que l'on se pose souvent lorsque on est seul. On pense à ces choses-là. Et surtout, l'avenir, tu te dis, chacun, à un moment donné, tu te dis que voilà, avec tous les projets de vie que je me suis conçu, les choses que j'avais prévu réaliser, je ne savais plus marcher à cause de cette maladie. Ce sont ces choses-là qui passent le temps à hanter l'esprit. Comment je laisse mes enfants? Avec aussi les examens de routine qu'on doit faire. Souvent, même les économies personnelles, tu ne peux plus le faire. Et tout ça, à un moment donné, ça te stresse. Tu te demandes à quel moment tu dois réussir.
Justement, la question que j'aimerais vous poser, c'est quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, quels sont, si vous devriez passer un appel aux décideurs, à la société, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir ou bien recevoir de la société et du gouvernement et de votre entourage pour mieux vivre avec le VIH?
Ça fait beaucoup de choses. Déjà, en premier, c'est de rendre les examens CD4, charge virale, tout ça, si c'est déjà gratuit. Et faire en sorte, au niveau de l'hôpital déjà, de simplifier le temps d'attente des ARV. Et dès que tu arrives, tu reçois ton médicament comme à une pharmacie et tu rentres. Ça va aider si on met les examens gratuitement pour les personnes parce que les autres avec qui je suis chaque jour, il y a les personnes qui n'arrivent même pas à faire une charge virale qui coûte dans les 10 000. Ils n'arrivent pas à avoir ces 10 000-là. Donc, si on peut mettre toutes ces choses-là gratuites, ça va être bien. Et pour moi-même, le plus difficile pour moi, c'est l'emploi. Avoir une AGR, une activité, qui veut particulièrement me donner les revenus. Parce qu'avec le fait que, depuis que j'ai déposé mes dossiers, on m'a renvoyé, on n'a pas pu me prendre à cause de mon statut. Ça fait en sorte que j'ai un peu de blocage de postuler ailleurs. J'ai toujours peur qu'à un moment donné, on va me renvoyer. Beaucoup sont renfermés à eux-mêmes. Mmh. Ils n'arrivent pas à avoir une activité qui peut produire de l'argent. Et on ne passe pas le temps à compter. Ni quelqu'un doit nous aider, quelqu'un doit nous aider. Le réel est devenu une maladie. Demander si on avait une activité qui pouvait nous produire un peu d'argent. Les âges, surtout les âges, ça devait beaucoup nous produire beaucoup.
L'activité génératrice de revenus.
Oui.
Mmh. Alors, on va terminer par là. Il y a certainement dans le monde ceux qui nous écoutent, qui ont découvert leur statut et qui vont peut-être le découvrir. Est-ce que vous avez un message pour ceux-là qui apprennent qu'ils sont séropositifs? Quel est le message que vous pouvez leur transmettre, vous qui êtes passé par cette étape-là?
Vraiment, lorsque quelqu'un découvre son statut positif, le plus important, c'est d'abord de l'accepter lui-même. Accepter pour que lui, il arrive que j'ai le virus, mais je n'ai pas encore la maladie. Donc j'ai encore l'espoir de pouvoir vivre longuement et vivre même ma vie comme il se devait, juste en prenant mes précautions. Le VIH n'est pas une fatalité, mais c'est juste un état d'esprit. Dis-toi juste que, ok, je porte le virus et je dois changer ma façon d'être. Si je buvais beaucoup, je dois diminuer. Si je fumais beaucoup, je dois arrêter. Et ça va me permettre de vivre longuement et en bonne santé. Parce que avec mes expériences personnelles, depuis que je prends mes médicaments et je les respecte, je n'ai plus des petites maladies qui viennent me hanter l'esprit, le rhume, les petits palus et tout ça là. Donc, quelqu'un qui suit vraiment son traitement, qui peut vivre longtemps et en bonne santé. Donc, le VIH n'est pas une fatalité, c'est juste quelque chose qui est arrivé et ça vient nous réveiller de mieux vivre, de vivre en prenant beaucoup de précautions et des principes pour sa propre vie.
Nous remercions Achille qui nous répondait depuis Douala au Cameroun. Nous remercions également la Credo, l'association chrétienne inclusive des personnes vivant avec le VIH au Cameroun, grâce à laquelle nous avons obtenu ce témoignage.
Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage.
Rendons-nous maintenant en RDC pour écouter un autre son de cloche. Toussaint, c'est son prénom, a été victime de maladies chroniques pendant 8 ans, jusqu'à ce qu'en 2005, il découvre que son système immunitaire était défaillant du fait du VIH-Sida. Entre soucis de santé, sentiments de désespoir et discrimination, Toussaint a eu besoin de la solidarité d'autres personnes vivant avec le VIH pour se relever. Écoutons le témoignage qu'il a livré à Béro Matanda, notre correspondante à Kinshasa.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Présentez-vous.
Oui, je suis Toussaint, je suis un membre de ICOPLUS. ICOPLUS, c'est l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH. En même temps, je suis coordonnateur d'une association de jeunes, Jeunesse Espoir, les jeunes qui vivent avec le VIH-Sida.
Monsieur Toussaint, quand et comment avez-vous appris que vous êtes séropositif?
Et c'était en 2005 que j'ai connu ma sérologie séropositive.
Comment avez-vous réagi et quelle a été la réaction de votre entourage?
Oui, personnellement, il n'y avait pas vraiment grand problème parce que la personne qui m'avait annoncé les résultats m'avait déjà préparé par le counseling. J'avais accepté quand même la sérologie et mes proches ou ma famille, j'avais seulement partagé avec ma mère et ma grande sœur.
Qu'est-ce qui vous avait poussé à faire un dépistage du VIH?
Avant que je connaisse d'abord ma sérologie, j'avais fait au moins 8 ans de maladie Et pendant que je tombe malade, personne ne savait pourquoi je tombe malade. Mais arrivant en 2005, là vraiment j'étais devenu mourant. L'hôpital a décidé de me faire un examen général. C'est là où on a connu maintenant que c'était le VIH qui me dérangeait, ou le sida.
Est-ce que vous connaissez au moins par quel moyen vous avez été contaminé du VIH?
Si j'ai une bonne mémoire, c'était à l'âge de 13 ans. Je ne pouvais pas me référer qu'est-ce qui m'a infecté. En tout cas, je ne suis pas vraiment informé sur ça.
Même en famille, personne ne le sait?
En tout cas, je ne sais pas, mais ce qui me vient parfois dans ma tête, et j'avais un cousin, un grand frère, qui tombait chaque fois malade, et il y avait un moment là qu'il avait fait des zonas, et c'est moi qui lui appliquais les pommades qu'on lui avait prescrites. Et pendant l'âge que j'avais, je ne savais pas est-ce que si vous appliquez c'est ça, il faut vous laver les mains. Après une année, j'ai commencé maintenant à tomber malade. Ça fait au moins 8 ans. Et même la famille ne savait pas pourquoi je tombe malade. Quand j'étais encore enfant, je ne tombais pas malade. Mais après ça, j'ai commencé à tomber malade tout le temps. Et si je fais un mois sans tomber malade, je glorifiais Dieu.
Quels sont les moments les plus durs que vous avez vécu en étant porteur du VIH?
Oui, les moments les plus durs, c'est parce que j'étais encore trop petit. Et j'avais déjà perdu l'espoir. C'est comme si la vie aurait fini le lendemain.
Avez-vous été victime de la stigmatisation et de la discrimination?
Oui, la discrimination, on le vit tous les jours. Pour la première fois, j'ai connu la discrimination au sein de ma famille. Quand j'ai fini ma 6e année des humanités, et je voulais poursuivre mes études universitaires. Et comme ma famille, ma grande sœur et ma mère savaient déjà ma sérologie, elles m'ont dit de ne plus continuer à étudier. Et mon petit frère qui était derrière moi, ils ont décidé de lui faire continuer les études au lieu de moi qui étais l'aîné. Ça m'a vraiment beaucoup fait du mal. C'était vraiment une discrimination.
Et après, vous avez repris avec les études?
Là, j'avais repris par mes décisions à moi. Et quand je me suis arrivé dans le groupe d'autosupport, j'ai trouvé les amis comme moi. Et bon, j'ai eu courage et je me suis intégré dans les groupes. J'ai commencé à exercer quelques activités concernant le VIH et j'ai commencé maintenant à gagner quelque chose par rapport aux activités de VIH et je me suis décidé de me faire scolariser moi-même.
Comment est-ce que vous avez intégré UCOP+?
Oui, c'était toujours dans le même groupe parce que j'avais créé un groupe de jeunes vivant avec le VIH par là que nous sommes maintenant membres de UCOP+.
Qu'est-ce qui pour vous est le plus difficile quand on est séropositif?
C'est la discrimination et la stigmatisation que nous, les jeunes ou les PVV, connaissent dans notre vie quotidienne.
Comment se passe le suivi médical d'un malade? Combien de fois vous vous rendez à l'hôpital?
Les premières années, c'était chaque mois. Les rendez-vous étaient comme pour chaque mois. Mais maintenant, là, comme je suis stable et je prends bien mes ARV, maintenant là, j'ai des rendez-vous de 3 mois après.
Est-ce qu'il y a des interdits en ce qui concerne le boire ou le manger?
Pour le boire, j'ai des interdictions par rapport à mes disciplines. Je ne peux pas prendre de la bière parce que j'ai peur de d'autres maladies comme les cirrhoses des foies. Mais concernant à manger, je mange tout ce que les gens mangent.
Avez-vous des effets secondaires ou des complications liées au traitement?
Non, je n'ai aucune complication.
Un message à ceux qui vous écoutent, les séropositifs et ceux qui ne le sont pas, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, je commence par les jeunes PVV. Être un séropositif, ce n'est pas la fin du monde. La vie continue parce qu'il y a des ARV qui nous donnent encore la chance de vivre comme tout le monde dans la société. Il suffit seulement d'accepter ta sérologie et de s'intégrer dans la communauté et bannir l'autostigmatisation et l'autodiscrimination. C'est ça là le grand problème pour nous. Et pour ceux qui ne sont pas PVV, il suffit seulement de nous accepter comme tels. Nous sommes les mêmes. seulement ce qui nous sépare, seulement les microbes qui est dans les sangs, mais physiquement comme ça, nous sommes les mêmes. Il suffit seulement de nous donner l'affection, de nous accompagner, de porter une main forte pour nous, et même par rapport aux partenaires. Depuis que nous sommes là, nous les jeunes PVV, nous, on n'a jamais reçu un financement de la part des partenaires pour appuyer nos activités des jeunes avec le VIH. C'est ça ce qui nous fait au moins mal, parce qu'aujourd'hui, moi je dis chaque fois que nous les jeunes PVV, nous sommes les acteurs principaux de la transmission du VIH, et nous sommes aussi les acteurs principaux pour mettre fin aux nouvelles infections à VIH. Si les gens viennent nous aider et nous accompagner avec les moyens physiques, moraux, matériels et financiers, nous allons mettre une barrière pour les nouvelles infections et les décès liés au VIH-Sida.
Nous remercions Toussaint à Kinshasa pour son témoignage. Si vous avez des questions sur le VIH ou sur les thèmes de santé en général, contactez-nous sur la page Facebook de VOAfrique.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Cette semaine, notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi, a recueilli les questions auprès de nos auditeurs de Bukavu en RDC. Nous avons sélectionné une de ces questions et notre consultant, le docteur Armand Genkap, y a répondu. Le docteur Armand Genkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Bonjour docteur.
Bonjour docteur. Je suis Trésor Malou Mumbere depuis la République démocratique du Congo dans sa partie est au Nord Kivu, dans la ville de Butembo. Mais docteur, est-il possible de mettre en confiance un enfant orphelin vivant bien sûr avec le VIH-Sida de telle manière qu'il grandisse sans se rendre compte qu'il souffre de cette maladie?
Ce que je peux répondre à Trésor, c'est que les enfants orphelins qui vivent avec le sida sont des enfants trop souvent victimes de stigmatisation, de discrimination, qui finissent d'ailleurs par provoquer un rejet dans la société. Ces enfants sont très souvent vulnérables par rapport à cette maladie qu'ils portent en eux. C'est pour cette raison d'ailleurs que ces enfants, du fait de cette vulnérabilité, ont besoin de notre protection, de notre amour, de sentir qu'on les couvre de notre affection. Il est bien possible de les mettre en confiance. Il faut juste dans un premier temps éviter effectivement qu'ils soient rejetés, abandonnés, stigmatisés ou discriminés dans leur environnement par la famille, par leur entourage, ne serait-ce que sociétal, que ce soit à l'école, que ce soit parmi les camarades de jeu. Il faut donc de ce fait vraiment rassurer ces enfants-là par rapport à leur maladie et leur faire comprendre qu'avec les progrès effectivement de la médecine, cette maladie est une maladie comme les autres et que l'on peut vivre sans souci malgré le fait qu'on est porteur de ce virus. Et il faut vraiment assurer à ces enfants une bonne prise en charge médicale et aussi une bonne prise en charge psychosociale. Et dans cette bonne prise en charge psychosociale, et c'est comme ça qu'ils vont se sentir bien intégrés dans nos sociétés et ils pourront vivre sans se rendre même compte qu'ils souffrent d'une maladie. Voilà la réponse que je pouvais apporter à Trésor qui appelle la RDC.
Merci docteur.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la vie des personnes vivant avec le VIH-Sida. Pour en parler, nous avons reçu deux invités. Achille, un homosexuel vivant avec le VIH-Sida au Cameroun. Il nous a raconté les différentes épreuves qu'il a traversées depuis la découverte de sa séropositivité. Depuis Kinshasa en RDC, nous avons écouté Toussaint qui a découvert son statut séropositif en 2005 et qui travaille depuis lors à mobiliser les jeunes séropositifs comme lui. Notre consultant, le docteur Armand Genkap, a répondu aux questions des auditeurs. À tous, nous disons merci.
Merci également à Firmin Koyaweda qui était là pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC. Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Beni au Nord Kivu qui ont contribué à la réussite de cette édition. Aiden Utko était à la console. Michel Joseph signe la réalisation de cette édition. À la présentation, vous étiez avec Rosine Munezero et j'étais en compagnie de
Mohamed Oumfa.
Restez tous branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car
votre santé, c'est votre avenir.
À très bientôt.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique. 24